vendredi 9 février 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information de Studio Kalungu au micro Nafis Adam Sirfo. Ce 9 février 2024, l'Union des scolaires nigériens commémore l'anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990. Le secrétaire général de la structure est à suivre dans ce journal. Un accrochage entre un convoi des forces de défense et de sécurité et des individus armés vers Arlit a permis la saisie de plusieurs armes, munitions et véhicules mercredi dernier. Le point avec le préfet d'Arlit dans un instant. Le magazine Culture de ce vendredi parle du festival international du film des droits de l'homme Fifido qui s'est tenu du 30 janvier au 4 février à Niamey. Comme chaque année, le 9 février, l'Union des scolaires nigériens commémore à la place des martyrs de Niamey l'anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990. Cette année-là, trois scolaires ont perdu la vie à l'occasion d'une marche. Écoutons Alassane et Fred Mouloud, le secrétaire général de l'USN au micro de Hassan Nour Abdrahman.
Aujourd'hui, ça fait exactement 34 ans que ces martyrs n'ont pas connu justice, malgré toutes les tentatives faites au niveau de l'ISN pour revendiquer justice à la mémoire de Aliou Nahanti, Maman Sagir et Issa Kakene. Nous avons choisi comme thématique centrale du 34e anniversaire commémoratif des événements du 9 février 1990 la responsabilité historique de l'ISN pour une nation et une gouvernance assumée contre l'impérialisme. Effectivement, la vision de l'ISN, c'est la responsabilité, la sagesse, surtout dans la conscientisation, parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, la plus grande problématique au sein des scolaires nigériens, c'est surtout les changements de mentalité. C'est pourquoi nous devons créer toutes les conditions nécessaires pour les changements de mentalité des scolaires nigériens, pour qu'ils puissent, au-delà, exiger leurs droits, qu'ils puissent accomplir leurs devoirs.
En bref, plaidant pour l'unité de la communauté, Omar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, dans son discours d'hier jeudi 8 février à Abuja, à l'occasion de la session extraordinaire, a déclaré, je cite, que la décision hâtive des pays de l'AES de se retirer de la CEDEAO ne prend pas en compte les conditions de ce retrait telles que prévues dans le traité révisé de 1993. Il poursuit en indiquant, je cite, plus important encore, les trois États membres n'ont pas vraiment réfléchi aux implications de ces décisions sur les citoyens sur nos citoyens. Fin de citation. Toujours en bref, selon une dépêche de Benin Web TV, le chef de l'État béninois Patrice Talon a abordé la question de la fermeture des frontières entre son pays et le Niger lors de sa conférence de presse du jeudi 8 février. Des discussions sont en cours avec la CEDEAO pour que des solutions définitives soient trouvées pour la levée des sanctions, a-t-il indiqué. Patrice Talon plaide l'ouverture d'esprit pour des solutions rapides et appropriées. Le mercredi 7 février, un groupe d'hommes armés non identifiés a voulu attaquer par surprise un convoi de véhicules civils escorté par les forces de défense et de sécurité en revenant vers Arlit, de retour d'un site aurifère. L'accrochage a eu lieu au nord-est d'Arlit. Le bilan fait état de deux véhicules des assaillants calcinés, plusieurs armes et munitions saisies. Écoutons le commandant Al-Mustapha Ousmane, préfet d'Arlit, au micro de Gungu Mahamad Dantani.
Le mercredi 7 février 2024 dernier, notre escorte est tombée dans une embuscade à peu près 300 km au nord-est. Dieu merci, nos soldats ont démontré qu'ils ont été formés pour ce genre de circonstances, puisqu'ils ont mis les hommes armés en déroute et ils ont aussi récupéré des véhicules et des armes de leurs mains. C'est pourquoi, en mon nom et au nom du président de la République et celui du Premier ministre, nous leur adressons nos salutations. Et vous avez vu aussi comment ils ont été accueillis par la population d'Arlit. Les gens sont passés une bonne partie de la journée à attendre leur retour. Nous les remercions encore, puisse Dieu les rétribuer. Nous disons merci à Dieu et merci à nos soldats.
Le foyer de la grippe aviaire déclaré le 30 janvier dans le premier arrondissement de Niamey a été maîtrisé selon les autorités sanitaires. Les aviculteurs continuent de respecter toutes les mesures en cas d'abattage de la volaille suite à un cas de grippe aviaire. Est-ce que l'État accompagne les aviculteurs? Réponse avec Abdamou Boubacar Dikimba, un aviculteur professionnel et président du regroupement des aviculteurs privés au micro de Zainab Abdou.
Quand la grippe aviaire se manifeste dans un foyer, on procède à une mise en quarantaine. Et d'abord, quand c'est vraiment des foyers isolés, on fait la mise en quarantaine du foyer. Et c'est ce qui fut fait à Niamey, parce que le cas qu'on a eu à Niamey, c'est dans un élevage à domicile. Les services compétents ont pu se mobiliser pour pouvoir circonscrire la maladie. Et nous, aujourd'hui, on ne peut dire qu'on est en train de renforcer les dispositions pour minimiser le risque de contamination. Lorsque un foyer a été déclaré de grippe aviaire, les mesures sanitaires imposent l'abattage systématique de l'effectif qui existe dans l'exploitation pour pouvoir limiter la propagation de la maladie. Et l'État a mis en place un système de compensation pour pouvoir rembourser ou soutenir l'éleveur qui a perdu son cheptel. Le montant qui est prévu, d'abord, il est dérisoire parce que c'est un montant qui date de très longtemps. Et de l'autre côté aussi, la période où on fait l'abattage et la période de la compensation peut aller au-delà de 4, 5, 6 mois.
À Maradi, dans le premier arrondissement, des cas de la maladie de la gale sont signalés au centre de santé intégré de Soura Aladei. Selon la responsable du centre, Madame Nassir Sahia, les cas les plus nombreux cas ne viennent pas de son aire de santé. Cependant, des dispositions sont déjà prises pour lutter contre la propagation de la maladie contagieuse. Elle est au micro de Mohamed Maman.
Il y a des cas de gale qui ont été signalés dans notre CSI. Malheureusement, ce sont des cas hors zone, mais pour nous, il y a des précautions qu'on peut prendre, comme ce sont des cas contagieux, parce que les élèves ont l'école, des moins 40 ans, ils n'ont pas seulement, ils vont se contaminer. C'est pour cela qu'on a pris beaucoup de précautions. Il y a des relais qui passent dans les écoles, dans les quartiers, même les quartiers d'origine de Soura Obandoma, de Soura Karakara, de Soura Janjuna, qu'on nous apporte beaucoup plus de cas qui est dans notre aire de santé Soura Aladei. On sensibilise beaucoup. On a augmenté le nombre de relais pour sensibiliser tout le quartier pour l'hygiène. Ce sont des maladies liées au manque d'hygiène. Il y a des boutons qui apparaissent dans le doigt. Et ça gratte beaucoup. Et c'est très contagieux. La seule protection, c'est l'hygiène. L'hygiène du corps et l'hygiène vestimentaire. Ça se traite.
L'actualité toujours en région, une délégation algérienne est arrivée hier jeudi 8 février à Agadez. Elle est conduite par Abed Halouz, directeur général de l'Agence algérienne de la coopération internationale pour la solidarité et le développement. L'objet est la reconnaissance des sites prévus pour le projet de construction d'un centre de dialyse, d'une polyclinique et d'un centre islamique. Écoutons Abed Halouz, chef de la mission au micro de Anissé Karim.
L'objectif de ma visite, c'est de faire une reconnaissance des sites retenus pour les projets qui ont été initiés au profit de la ville d'Agadez. L'Agence algérienne de coopération internationale a été créée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour apporter une aide, être solidaire avec les populations du voisinage. Au profit du Niger, il a été retenu une polyclinique, un centre d'hémodialyse, un institut islamique et au niveau de Zender, un lycée professionnel. Cette aide fait partie des principes et des traditions du pays qui souhaite partager le progrès avec son voisinage. Et l'Algérie restera toujours solidaire de ses voisins.
Retour ici à Niamey où s'est tenue mercredi dernier à l'hôtel de ville la réunion sur le lancement des activités de la reconstruction du petit marché de la capitale. Un projet très attendu par la population et les commerçants. Habiboulaye Zangagado, vice-président du conseil de ville de Niamey, donne des détails au micro de Hassan Nour Abdrahman.
Comme vous le savez, depuis pratiquement plus de 10 ans, l'espace du petit marché est resté à lui-même à la suite d'un incendie ravageur qui a dévasté tous les marchés. Après la réunion d'hier qu'on a eue au niveau de notre salle de réunion, un comité sera mis en place. Il y aura les représentants des commerçants, les représentants de la ville, de la région, du ministère, de la chambre de commerce, pour qu'ensemble qu'on puisse se mettre d'accord sur les modalités de la reprise de la construction du petit marché. C'est le petit marché en tant que tel qui sera construit. Je dirais plus que le grand marché, puisque notre ambition, c'est de faire un marché dans toute la sous-région. On ne pense pas qu'on puisse avoir un tel marché. Donc, ça va être un marché à plusieurs niveaux. Mais comme on a eu à le dire hier, on a insisté là-dessus. La mairie en tant que tel n'a pas les moyens pour construire ces marchés. Donc, c'est ensemble entre les acteurs, on va voir comment vraiment s'organiser pour que ces marchés soient sur pied.
Du sport en bref, les gazelles de l'équipe nationale féminine U17 affrontent en match retour leur homologue, les Lioncelles de l'Atlas du Maroc. La rencontre est prévue ce vendredi 9 février à Berkane. Cette opposition s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Rappelons qu'en match aller, les joueuses de Hamidou Djibo ont été battues 11-0. À présent, le magazine de ce journal, le Festival international du film des droits de l'homme FIFIDO, s'est tenu du 30 janvier au 4 février à Niamey. Des opérateurs du 7e art venus de 15 pays africains ont participé à la 7e édition. Ismaël Amadou Harouna a suivi pour nous le déroulement de ce rendez-vous culturel. Voici son récit.
L'édition 2023 du FIFIDO a braqué son projecteur sur le cinéma en face de l'éducation de nos enfants. Le président du festival s'est dit satisfait du résultat. Bédar Yacoub Hamani.
C'est un bilan quasi positif, un sentiment du devoir accompli, d'avoir réussi à atteindre les objectifs que cette 7e édition s'est donnée. La mobilisation a été de mise et la confiance est en train de s'installer autour de nous.
FIFIDO Niamey a connu la participation des responsables d'autres festivals internationaux. Le délégué général des rencontres cinématographiques de Cotonou apprécie. Fado Neopo Saint-Tigui Dimitri.
Quitter le Bénin pour le soutenir, ça avait un grand plaisir. Le combat que nous faisons aujourd'hui, c'est d'abord que nous puissions être véritablement libres, avoir notre mot à dire dans tout ce qui se fait.
Des idées de films ne suffisent pas. Les acteurs doivent mettre le paquet pour se former, perfectionner le 7e art. Exhorte Beydar Yacouba.
Lorsqu'on veut réussir une œuvre, il faut se former. C'est là où je lance un appel à l'endroit de nos camarades, sans quoi le cinéma nigérien va toujours somnoler.
Avec focus sur les droits humains, les films présentés au FIFIDO ont promis l'éducation aux droits des enfants. Réaction de Rachid Rahman, acteur cinéaste et critique d'œuvres d'art.
Nous savons qu'en Afrique, nous avons besoin, plus particulièrement au Niger, de revoir notre manière d'éduquer nos enfants. Il faudrait que nous revenions à un système à l'africaine en l'adaptant au moment. C'est en cela que cette thématique de FIFIDO m'inspire beaucoup d'espoir parce que tous ceux qui touchent à l'éducation de nos enfants touchent à l'Afrique de demain et l'Afrique de demain doit se préparer dès aujourd'hui.
Le manque de financement freine le développement du cinéma du Niger. En sa qualité de président des acteurs africains et nigériens, Beydar Yacoub Hamani suggère des pistes de solutions.
Notre objectif, c'est d'arriver à créer une industrie cinématographique et cette industrie cinématographique ne peut se créer tant qu'il n'existe pas un fonds spécifiquement dédié au cinéma. Tous les autres pays qui sont considérés comme des grands pays africains de cinéma, l'image de tout cela, que le Niger puisse aussi avoir son fonds d'appui à la production cinématographique.
Des 9 trophées ouverts aux 15 pays en compétition, le Niger en a gagné 2. Meilleur scénario pour le film Le Pardon de Boubacar Djingare Maïga. Meilleure interprétation féminine pour Kaliatou Soumana. Et Le Courage en plus. Production franco-guinéenne de Billy Touré et Chevalier Laurent a remporté le meilleur prix engagé dans la catégorie droits de l'homme.
Ici prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Tout de suite donc, les journaux en langue nationale et à partir de 18h15 à retrouver Mokhtar Hamadou et ses invités pour le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève dans le forum de la presse. Et n'oubliez pas d'écouter les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement et le reste des productions sur l'application Studio Kalangou disponible sur Play Store. Tout de suite, le journal en langue tamashèque avec Alamine Ouachara.
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangou sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et Studio Kalangou, au rythme du Niger.